Tous les angles.
Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord.
Cube Radio.
Alors, ces temps-ci, bien sûr, la COVID-19 occupe à peu près 99,9% de l'actualité, mais le reste de la vie continue. Et ce qui continue, entre autres, c'est cette commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, la fameuse commission Laurent, à cause du nom de sa présidente, Régine Laurent, donc qui se pose sur, qui s'intéresse à la DPJ après le décès de la jeune martyre de Granby. On va en parler avec Guylaine Ouimet. Elle est travailleuse sociale et présidente de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Bonjour, Madame Ouimet.
Bonjour, Madame Drochet.
Vous avez donc déposé un mémoire devant cette commission et vous dites que la DPJ doit redevenir une mesure d'exception, c'est-à-dire quand tout le reste a flanché, là, on se tourne vers la DPJ. C'est pas ça la situation en ce moment.
Non, malheureusement, nous, ce qu'on disait dans notre mémoire, c'est que dans les 30 dernières années, il y a eu vraiment un effritement important de l'accès et de l'investissement dans les services sociaux de première ligne et de proximité. Nous, ce qu'on dit, c'est que il faut absolument qu'on radie tout le volet de la première ligne. Quand les gens commencent à avoir des problèmes, même tout de suite après un accouchement, quand il y a des problèmes de couple, quand il y a des problèmes de communication, quand il y a de la violence dans une famille, il faut tout de suite que le réseau s'investisse auprès de ces gens-là pour leur donner une chance pour pas éventuellement arriver à la DPJ, qui est la mesure d'exception. Mm-hmm. On parle de pyramide inversée ici. Là. C'est vraiment une exception. Ça devrait être un petit nombre de personnes qui arrivent à la porte de la protection de la jeunesse.
Comment ça se fait qu'au fil des ans, on est passé d'un modèle, justement, comme vous le dites, la pyramide inversée, c'est-à-dire que avant, c'était vraiment le dernier recours, alors que maintenant, on a l'impression que c'est le premier recours. Comment ça s'est fait, ça, au fil des ans?
En fait, on l'explique très clairement avec un désinvestissement important dans le social pour investir plus dans le curatif. Et je vous dirais que nous, on a des chiffres, et même le commissaire à la santé du bien-être du Québec n'arrive pas à chiffrer les investissements dans les 10 dernières années qui ont été mis dans les services sociaux généraux. Alors, on sait tout simplement qu'il y a eu un désinvestissement, qu'il y a eu moins d'argent de mis, mais plus d'argent au niveau du curatif. Donc, on ne s'est pas occupé de donner les sous nécessaires et les ressources nécessaires pour que, au niveau des services sociaux généraux, ça soit accessible. La pandémie actuellement nous le déclare clairement.
Oui.
Ce qui se passe actuellement dans les CHSLD et dans l'accès dans l'ensemble des services, que ça soit à domicile, que ça soit justement l'accès pour les familles qui ont des difficultés, les ressources sont pas là, là parce qu'on a coupé.
Mais donc, c'est comme si, au lieu, avant, on investissait dans la prévention et moins dans la guérison. Et maintenant, ben, on a tellement peu investi dans la prévention qu'on se retrouve avec des problèmes énormes. C'est un petit peu le parallèle qu'on peut faire.
Exactement. Et quand la réforme Barrette est arrivée dans le système également, je peux ajouter à cet égard-là, il y avait déjà un grand désinvestissement.
Oui.
Et en plus que ce gouvernement-là a coupé de façon encore plus drastique dans les services sociaux sur une échelle de 10 années, ce qu'on peut voir, c'est des désinvestissements à moins de pourcentage. Alors, c'est quand même assez éloquent. Comme on dit, les faits sont têtus et démontrent qu'il y a eu un manque d'investissement. Et regardez là, dans les CHSLD, regardez à la DPJ, ils n'ont pas assez de gens pour gérer des listes d'attente. La crise qui se passe actuellement avec les travailleurs sociaux qui ont une surcharge de travail et qui vivent une grande démobilisation par rapport au travail, c'est vraiment en lien avec ça. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de pousser et faut permettre aux travailleurs sociaux de faire leur travail de façon éthique et de qualité auprès de ces familles-là qui ont des problèmes quand même très complexes.
Oui, mais parlons-en justement bon des travailleurs sociaux qui sont sur le terrain. Ce qu'on entend très souvent, c'est que un travailleur social qui travaille en protection de la jeunesse passe plus de temps à remplir des formulaires ou faire des patentes de bureau plutôt que de s'occuper des petits sur le terrain. Est-ce que c'est une bonne description de la situation?
C'est tout à fait une très bonne description et nous l'avons documentée et soumise évidemment au ministre Carman pour qu'il y ait des ajustements de fait. Mais vous voyez un peu la philosophie curative. Parce que dans les hôpitaux, on fait des statistiques, tant de piqûres, tant de ressources, parce qu'on s'en, le virage qui s'est fait, c'était un financement à l'acte. Ouais. Et on a imposé un peu cette même logique industrielle-là aux services sociaux. Et ça ne fonctionne pas. Tous les processus lean qui ont été mis en place par la réforme Barrette ont eu un impact très négatif parce qu'un être humain, d'abord et avant tout, c'est pas une machine, c'est pas une piqûre, c'est pas une intervention chirurgicale. C'est pour avoir un lien, il faut avoir le temps de parler avec la personne, il faut créer un lien de confiance, il faut travailler sur différents niveaux et ça, ça prend le temps nécessaire. Alors, avant Barrette, même Bolduc et Couillard avaient commencé à instaurer ce financement-là qu'on dit à l'acte et que ça ne fonctionne pas au niveau de la santé mentale et des services sociaux, malheureusement.
Donc, ce que vous demandez, en fait, en présentant ce mémoire-là devant la commission Laurent, ce serait de réorganiser complètement la direction de la protection de la jeunesse, vous de renverser complètement la vapeur.
En fait, ce qu'on a dit par rapport à la protection de la jeunesse, c'est que c'est important, c'est une mesure d'exception. Il faut habiller la première ligne pour que les familles, quand ils arrivent à la mesure de protection, c'est qu'ils ont eu avant ça plusieurs services pour les aider. Alors, au niveau de la protection de la jeunesse, ce qu'on dit, c'est d'habiller la protection de la jeunesse avec des équipes interprofessionnelles, des gens qui sont spécialisés pour bien intervenir dans des situations aussi complexes. C'est un peu la comparaison que je faisais. C'est quand vous avez un cancer, vous allez voir un oncologue.
Ouais.
Quand on arrive à la DPJ, c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes et ça prend plusieurs, je vous dirais, types d'interventions pour vraiment répondre aux besoins de ces familles-là.
Donc, il faut intervenir avant que la famille développe un cancer de famille. Écoutez, toute la raison pour laquelle, évidemment, il y a eu la mise sur pied de la fameuse commission Laurent, c'est à cause de cette histoire sordide de la petite fille martyre de Granby. Et je sais que pour les travailleurs sociaux, ça a été extrêmement difficile d'accepter cette nouvelle-là qui a créé vraiment une onde de choc dans le milieu. En même temps, on s'y attendait, je m'excuse de dire ça de cette façon-là. Est-ce que dans l'état actuel des choses, c'est une crainte que vous avez qu'il y ait d'autres cas comme celui de la petite fille de Granby qui sont en train de se dérouler en ce moment au Québec?
En fait, on est encore soucieux de cela parce qu'il y a eu certainement des réinvestissements. On sait qu'il y a eu des argents, des postes ouverts, mais actuellement, il n'y a pas suffisamment encore de ressources pour répondre aux besoins de la population. Et je vous dirais que on n'est pas encore là vraiment soucieux de que cela puisse se reproduire.
Est-ce que vous avez des informations sur le terrain qu'il y a des familles problématiques qui sont en train d'échapper, de tomber entre les filets du système?
J'ai pas ces données-là, Madame Durocher, mais on sait que les travailleurs sociaux qui nous appellent pour nous donner un peu le son de cloche de ce qu'ils vivent sur le terrain, c'est qu'eux-mêmes, ils sont très, 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 ils sont brûlés. Ils ont de la difficulté à concilier travail-famille en plus dans le cadre de la pandémie. Les remparts arrivent, mais tout doucement. Et ils vivent le deuil vraiment de ce qui s'est passé à Granby, ainsi qu'à Joliette d'ailleurs.
Oui.
On le dit en commission aussi, hein, on redoute que ce genre de situation-là se reproduise. C'est pour ça qu'on a sommé vraiment la commission d'agir rapidement.
Est-ce que vous sentez entendu par la commission Laurent?
Ah, tout à fait. Tout à fait. Écoutez, hier, j'ai passé une heure avec Mme Laurent et ses commissaires. Et puis, les questions qu'on a forées ensemble étaient très, très pertinentes. Ils ont vraiment une très bonne écoute, beaucoup de respect aussi pour la profession. Alors, écoutez, non, je pense qu'ils sont là pour écouter, trouver des solutions et puis... Elle tient mordicus à déposer son rapport en novembre, mais j'ai très, très hâte de voir si ce que nous avons soumis sera soutenu.
C'était important de
retenue, je veux dire.
Oui, tout à fait. On avait compris. Écoutez, c'est important de se rappeler que malgré le fait que justement l'actualité soit beaucoup concentrée sur la pandémie, il y a toutes sortes d'autres souffrances dans la société en ce moment. Et au premier chef, évidemment, les enfants, la jeunesse. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui, Guylaine Ouimet. Vous êtes travailleuse sociale et présidente de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.
Bienvenue, Madame Durocher.
Merci.
Bonne journée.
Merci.
Sophie Durocher.
On n'est pas obligé d'être d'accord.